Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bienvenue au musée départemental de la résistance et de la déportation pour cette table ronde. On est très heureux de vous accueillir ce soir. Et on est aussi très heureux d'accueillir Marie Veslik, voilà, qui sera présentée tout à l'heure par un de nos intervenants. Cette table ronde, elle est organisée donc par le Conseil départemental de la Haute-Garonne et en partenariat avec la mission Les Chemins de la République. Et donc nos trois intervenants vont à la fois mélanger les aspects scientifiques du sujet, donc la mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans la communauté LGBTQIA+, mais aussi vous parler de leur parcours militant. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de cette soirée.
Merci beaucoup Fanny. Alors moi c'est Isabelle Santis et on m'a demandé d'intervenir mais en même temps d'essayer d'être un peu gardienne du temps. Alors je sais que je peux compter sur Hervé et sur Régis, moi-même peut-être pas puisqu'on est des passionnés, mais on va faire au mieux. L'idée c'est que pendant une heure on va un peu vous présenter nos parcours mais aussi le parcours de nos associations, les travaux de recherche de Régis. Et puis ensuite on échangera avec vous hein, puisque l'idée c'est dans le dialogue. Surtout que nous sommes dans un moment quand même très particulier, comme vous le savez. Et là, on peut voir une artiste queer de la région qui a, il y a quelques temps, mis sur son compte Instagram cette image mobilisant et donc une histoire lesbienne de la Seconde Guerre mondiale et créant et nous invitant à faire partie de ce antifasciste queer club. On verra, j'espère que nous en faisons partie tous et toutes. Et puis, on est dans un moment de mobilisation où un certain nombre de militants et de militantes nous rappellent quand même les enjeux qu'il se passe. Donc, nous, on va vous donner d'abord un petit peu par rapport à notre parcours, se situer dans notre parole. Et puis ensuite, on va aller voyager concernant donc cette Seconde Guerre mondiale et ses mémoires. Régis, nous on se côtoie depuis quelques années. Est-ce que tu veux nous dire, puisque toi tu es le chercheur de cette tribune, peut-être en quelques mots ton parcours, et tu peux bien sûr, voilà, là on a tes travaux quelques-uns hein, puisque tu as quand même édité, publié un certain nombre de travaux. Est-ce que tu veux?
Donc bonsoir à toutes et tous, je suis Régis Schleck-Denhoffen, je suis chercheur à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui est une sorte d'université présente à Paris, mais aussi à Toulouse, par ailleurs, et en association avec l'université Jean Jaurès, ex Toulouse Le Mirail. Et donc, je suis le chercheur de service ce soir, mais ça me fait très plaisir, étant donné que j'ai pas mal travaillé sur la commémoration, la mémoire et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a quelques publications qui apparaissent dans mon dos. Un ouvrage, justement, sur qu'est-ce qu'une victime homosexuelle du nazisme et comment elles ont été commémorées en Europe de l'Ouest. Un autre travail, être homosexuel en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Un troisième, mais qui est en l'occurrence le premier, la bibliothèque vide et le mémorial de l'Holocauste de Berlin, qui remonte un peu au moment où les nazis sont justement arrivés au pouvoir et ont commencé par brûler des livres avant de brûler des gens. Et un quatrième petit fascicule qui est un manuel destiné aux enseignants et enseignantes sur l'histoire de l'Holocauste en Europe et qui permet de s'intéresser aux différents groupes de victimes du nazisme. Et à l'heure actuelle, je travaille un peu sur autre chose, mais toujours dans la même veine. C'est que j'essaye de comprendre qui ont été les personnes condamnées pour homosexualité au titre de différents articles de loi en vigueur en France jusqu'en 1982. Et donc je fais un peu un tour des archives départementales pour essayer d'illustrer ce phénomène et comprendre comment ça pouvait se passer selon les régions. Et dans certaines, c'était un peu plus dur, dans d'autres, un peu plus souple. Et donc, essayer de documenter ça pour essayer aussi de comprendre combien de personnes ont été condamnées. Et c'est un peu l'objet de discussions au Parlement et en dehors, à l'heure actuelle.
Merci Régis. Alors Hervé, tu as choisi cette image pour te présenter et te situer.
Oui. Bonsoir tout le monde, Hervé Rugoyen, beaucoup ici me connaissent. Je voulais commencer par cette image qui est une image de Toulouse. on est en train de voir au Moyen-Âge, en 1296, la castration d'un homme. Donc ça veut dire que dans l'histoire, malheureusement, il y a toujours eu une persécution plus ou moins violente. Voilà. Donc je voulais commencer par cette image avant de parler de déportation. Donc c'est une image certes choquante, mais ça explique aussi comment ça a pu se construire cette haine qui en fait, cette haine se conduit de génération en génération et de siècle en siècle. Alors moi je suis ni chercheur ni historien, mais je suis un porteur de la mémoire de la déportation. Mais alors, comment je suis arrivé là? Alors, on me laisse peu de temps, je vais essayer d'être très très rapide, très concis. Au début des années 90, je suis un militant dans la lutte contre le sida, très engagé. Je fus, entre autres, président d'ACTUP Toulouse. J'ai créé la première maison d'accompagnement de fin de vie de province, Saint-Marie, en 1992. Successivement, j'étais responsable, co-président, etc., de la journée mondiale de lutte contre le sida pour la région, ainsi que le relais pour le SIDAction. Certains le savent, je suis aussi le fondateur de la Marche des Fiertés, qui a eu lieu il y a peu de temps. Oui, c'était la 29e marche. Ça commence à dater. En fait, toutes ces années militant anti-sida, j'ai vu des proches qui ont été exclus du jour au lendemain de leur travail, de leur famille, et au final vont mourir au bout de quelques semaines dans des squats. Et donc, déjà, ça m'a interpellé comment l'être humain, comment des parents peuvent se détourner de leurs propres enfants et en arriver à les laisser pourrir, se décomposer dehors, dans la rue. Donc, d'où j'ai créé évidemment Saint-Marie. Et donc tout ça, ça m'a interpellé. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le magazine Guépier, qui est devenu Guépier Edo, donc a été créé par Jean Bitou en 1979, s'est arrêté en 1992. Or, on était en plein fléau du sida. L'un des supports de communication qui sensibilisait la population LGBTQI+, venait de disparaître. Et donc, dans l'urgence, c'était de poursuivre à donner l'information sur ce qui se passe au niveau du sida. Donc, je crée une maison d'édition qui s'appelait EDL, édition de la 2001. Et j'ai créé un magazine dont certains peuvent s'en souvenir, un magazine régionaliste. Donc il y avait plusieurs magazines sur la France, plusieurs régions étaient représentées, un magazine LGBT. Et entre autres, j'ai édité certains livres, dont le livre de Amnesty International, Briser le silence. Et donc, en ayant créé ce magazine, l'une des choses, c'était de véhiculer la prévention du sida, mais en utilisant d'autres vecteurs, l'aspect culturel, sociologique, etc. Et quand je crée ça, en fait, il se passe une chose, c'est quand je crée ça en 93, juste après avoir créé, je découvre qu'il y a une personne, il y a un Toulousain que les anciens connaissent, qui se baladait avec sa gabardine, son chapeau, dans les rues de Toulouse. Elle avait un look un peu particulier. Je parle de Pierre Zille, qui vivait à Toulouse, qui est décédé à Toulouse. On en reparlera donc après. Et j'ai eu donc l'occasion de l'interviewer en 93. Je suis allé chez lui, rue Fenetra. Et je suis sorti de chez lui, on va dire, excusez-moi, bouleversé, voilà. Et bouleversé de ce qu'il m'a dit, que ne retrouve pas forcément tout dans le livre. Et c'est là que je me suis commencé à me poser la question sur la déportation. Au départ, évidemment, la déportation uniquement pour motif d'homosexualité. puisque ma famille, c'était pas un sujet dans ma famille. Dans ma famille, personne n'a été déporté. C'était un non-sujet. Et donc, pour moi, je découvrais tout ça. Voilà. Ce qui m'a mis, en fait, une véritable prise de conscience sur l'action d'une minorité d'individus qui vont porter leur haine sur une majorité d'entre nous. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, entre autres ce dimanche. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle plus que l'un des partis politiques a été créé par la division Charlemagne. Voilà. Comme si l'histoire n'existait pas. Or, on sait très bien que l'histoire ne fait que se reproduire. Ce qui est fort dommage. Maintenant, juste pour constituer la situation, aujourd'hui, d'après les dernières recherches, il y a eu 600 homosexuels français qui ont été arrêtés, emprisonnés ou déportés en France. Les chercheurs et historiens estiment que nous ne dépasserons a priori jamais les 1000 personnes. Donc nous sommes bien loin des personnes déportées au titre de la Shoah, des Tziganes ou des résistants. Et je profite de cette parole, puisque tu l'as citée, pour vous dire que nous avons beaucoup de chance ce soir, puisque nous avons parmi nous une survivante de la Shoah, arrêtée à Toulouse, à l'âge de 14 ans, toute seule, sans sa famille. Elle a connu deux camps, elle a connu la marche de la mort, et elle a tenu à être avec nous ce soir. Je pense que nous tous, on peut te remercier d'être là. Merci Marie, Marie Vézlik.
Merci Marie, on échangera avec vous tout à l'heure, comme avec l'ensemble de des personnes présentes dans l'Assemblée. Alors moi, eh bien, il y a des choses assez communes, sauf que je suis à l'autre bout de la France, Hervé, puisque moi, je suis née à Lille en 74. J'ai toute une famille catalane par mon papa qui sont des résistants et résistantes communistes dans les Pyrénées-Orientales. Et donc moi, enfant, eh bien, je vais assister, participer à toutes ces cérémonies du souvenir des déportés. Je vais voir mes grands-parents échanger avec d'autres résistants, des amis déportés qui ont pu revenir. Et en fait, moi, enfant, je suis un petit peu, on va dire, ce renouveau de vie. Donc je reçois beaucoup d'amour de la part de ces personnes. C'est des moments très festifs. Alors, enfant, je comprends pas toujours très bien quand on parle de violer. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vois bien que les visages se ferment des adultes, se crispent. Mais pour moi, c'est aussi des moments de retrouvailles et de convivialité avec mes grands-parents. En plus, certains de leurs amis ont des résistants, ont des mots de code résistants comme Tarzan. Alors moi, enfant, ça me fait rêver, bien sûr, hein, qu'on parle que je vais voir Tarzan. Alors c'était un autre Tarzan, tout aussi extraordinaire que celui des bandes dessinées, mais c'était un passeur qui effectivement aidait les personnes à passer la frontière espagnole. Alors moi, j'ai présenté cette image parce qu'effectivement, à 20 ans, en tant que lesbienne, je me retrouve en tant qu'étudiante en histoire à aller dans une association, les Flamants Roses, qui est une association qui milite pour différents sujets, et notamment pour la reconnaissance de la déportation pour homosexualité. Je découvre en fait une histoire que je ne connais pas, que ce soit auprès de mes professeurs à l'université, que de ma famille biologique. Et là, donc vous me voyez, il faut me chercher, vous avez quelques instants pour me retrouver sur cette photo, avec donc des militants, à la journée du souvenir des victimes de la déportation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Flamants Roses, 2-3 ans avant, en fait, ont souhaité, comme d'autres personnes à travers la France, participer à ces cérémonies. Et en fait, ont été refusées. Et donc là, on avait décidé de faire tout une mobilisation cérémonielle. On avait retrouvé, on avait remis des différents symboles de l'oppression. Et en fait, pour moi, c'était assez fondateur parce que c'est vraiment le moment où je vais vivre de la lesbophobie, puisque j'en ai vécu dans ma famille, mais pas en fait dans l'espace public, pas pour accueillir ma démarche de citoyenne. Et donc, ça va être vraiment quelque chose de très fédérateur dans mon histoire. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comme toi, j'étais aussi très impliquée dans la lutte contre le sida. J'étais à ACT UP Lille. Et oui, il y a eu plein d'ACT UP. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est que vous voyez qu'on soit d'une région ou d'une autre, eh bien, effectivement, on a des parcours parfois qui peuvent se dialoguer. Et donc effectivement, nous aussi, alors on a à peu près anniversaire de Pride, et on y reviendra. C'est vrai que en tant que jeune lesbienne, ça a été quand même un grand choc. Et mais depuis, j'ai pu avec d'autres partager, et on le verra, sa dimension mémorielle. Donc Régis, tu as donc Hervé a évoqué certains chiffres de personnes déportées pour homosexualité. Est-ce que tu peux un petit peu nous mettre en contexte donc cette Seconde Guerre mondiale et puis effectivement ce qui peut se passer pour des hommes et des femmes dans différents pays d'Europe?
En 2 minutes.
Non, un peu plus.
Donc, premièrement, vous avez la chance d'avoir une petite diapositive derrière vous intitulée « Tenir compte des faits historiques » avec quelques éléments de cadrage. Mais ce qui est assez important de noter tout à la fin, c'est que finalement, les personnes dites déportées ou internées pour homosexualité, on a une fourchette très large, vous voyez, de 5 à 10 000, donc du simple au double. Et ça montre bien la complexité du travail lorsqu'il s'agit de recenser le nombre de personnes concernées ou de victimes. C'est qu'il y a énormément d'archives qui ont disparu, qui ont été détruites par les nazis. Et vous avez sur le côté droit... ce système de catégorisation inventé à Dachau ou Dachau près de Munich en 1937 qui s'est étendu aux autres camps et qui permettait de catégoriser donc vraiment les détenus, les Häftlinge dans les camps de concentration nazis. Et ce qui est assez intéressant, c'est d'une part que vous ayez ce fameux triangle rose dont se sont réclamées toutes les associations et l'ensemble des mobilisations qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale et qui concernaient finalement un nombre assez minoritaire d'internés, et aussi le triangle vert qui était celui des droits communs et qui concernait aussi pour partie des homosexuels, selon que ceux-ci étaient soit arrêtés et disposés d'une procédure judiciaire, et c'est pour ça qu'on dit des condamnés de droit commun, donc c'est des personnes qui étaient condamnées en vertu de l'article 175 qui était en vigueur en Allemagne, qui réprimait l'homosexualité masculine uniquement depuis 1919, mais qui en 1935 est devenu beaucoup plus dur, donc on réprimait beaucoup plus, et quand on regarde les statistiques, on voit une explosion, donc c'est exponentiel le nombre de personnes qui sont condamnées à partir de ce moment-là. Et les triangles roses qui correspondent à... Il y a souvent un système extrajudiciaire qui fonctionnait très bien en Allemagne nazie et un peu dans tous les systèmes répressifs, autoritaires et fascisants. Et donc qui permettait d'interner ces personnes avec ce triangle rose qui était celui qui était aussi le plus difficile à vivre dès lors qu'on était en camp, parce que c'était stigmatisant, stigmate homosexuel, et c'est la raison pour laquelle ceux qui y étaient avaient une espérance de vie bien moins élevée que ceux qui n'avaient pas le triangle rose. Alors 1935, c'est vraiment le moment où les nazis décident de faire un peu de l'ordre dans le pays en arrêtant, en internant pas que les homosexuels mais tous les opposants politiques. C'est le moment des camps sauvages avant qu'il y ait les grands camps qu'on connaît qui émergent aux quatre coins de l'Allemagne et accessoirement à partir de 1940 lorsque l'Alsace est annexée de fait. Il y a aussi deux camps d'internement le Schirmeck et Struthof qui existent, dont l'un en lequel fut interné Pierre Zell ainsi que d'autres homosexuels alsaciens, parce qu'on a, je ne sais pas, entre 300 et 400 Alsaciens qui ont été internés dans les camps alsaciens. C'est ce que disait auparavant notre camarade Hervé. Et il y a aussi des arrestations d'homosexuels dans le reste de la France avec des profils très différents et des conséquences très différentes. Mais ce qui fait que petit à petit, on peut toujours en trouver plus. Faut vraiment aller farfouiller dans les archives et c'est loin de nous être servi sur un plateau d'argent. Donc c'est compliqué. Donc on peut continuer d'en trouver, et tout particulièrement d'ailleurs dans le Grand Sud-Ouest, parce que c'est une zone où il y a encore beaucoup de choses à explorer, et Jean-Luc Schwab, qui a été cité précédemment, a commencé à travailler dans différents départements, donc il en trouve régulièrement. Alors voilà, je dis pas chaque jour, mais chaque mois on en a un de plus qui est décompté concernant la France. Mais concernant les camps de concentration nazis, on reste à 5 ou 10 000. Il y a énormément d'archives qui ont disparu. Et c'est pour ça qu'il y a, différentes, non pas méthodes. Là, on passe de l'histoire à la mémoire, comme cette exposition qui a été réalisée au musée, au Schulhess Museum de Berlin, qu'on peut appeler le musée PD, et qui montre des portraits de personnes arrêtées pour homosexualité. Il y en a eu beaucoup hein, qui se retrouvaient aussi en prison, donc pas forcément en camp de concentration. Il y a des destinées très différentes, étant donné que la délation était encouragée. Donc voilà, plus on dénonçait ses voisins, mieux c'était apparemment, notamment pour homosexualité. Et c'est pour ça qu'on a ces destinées et ces arrestations, aussi bien d'hommes et de femmes, même si le système répressif légal tel qu'il était pensé concernait plus particulièrement les hommes. Ayant des relations homosexuelles. Donc la question, c'est pas toujours celle d'une identité. Il y a des personnes qui ont été arrêtées parce que elles avaient cette identité qu'on dirait homosexuelle, d'autres qui avaient des pratiques homosexuelles, donc c'est quelque chose de différent. Mais néanmoins, la destinée était la même, et dans les camps de concentration, bah, c'était extrêmement dur pour eux, étant donné qu'ils étaient assignés toujours à ce qu'on appelle les commandos disciplinaires, et donc ce sont les travaux les plus durs. Et c'est la raison pour laquelle l'espérance de vie était très faible, sauf quelques-uns qui avaient de la chance, on y reviendra, tels que Rudolf Brasda, et qui a eu une destinée extraordinaire en camp. Et ceux qui ont pu témoigner sont des gens qui ont forcément eu des destinées extraordinaires, vu que bah, les autres n'en sont pas revenus.
Merci Régis, et tout à l'heure on pourra te poser des questions, à te demander peut-être des précisions. Donc effectivement, il y a cette période de l'Europe nazie. Hein, le musée a accueilli l'exposition du mémorial de la Shoah, et on l'a été encore présenté à Toulouse dernièrement à l'espace Diversité Laïcité. Il y a donc un travail mémoriel qui va se faire dans différents pays d'Europe. Et là, l'idée, c'était de faire peut-être un focus avec toi sur... Je ne sais pas si on peut dire des avant-gardes, mais...
Oui. Donc là, vous avez deux images assez sympathiques. C'est Amsterdam aux Pays-Bas. Et donc, il y a un monument qui a été inauguré. Le titre est explicite, Homo Monument. Donc, et qui a été... Enfin, le projet a été amorcé en 1979. Donc, ça a duré 8 ans jusqu'à ce qu'il y ait ces stèles qui soient érigées, enfin, placées au bord d'un canal sous forme de triangle rose. Donc, ça reprend vraiment cette figure assez classique dite du triangle rose que vous avez pu voir sur les tenues des internés auparavant. Et qu'on doit à Karine Dahan, donc une sculptrice, et qui reprend d'ailleurs des mots d'un célèbre... Il y a marqué, là on le voit pas, mais il y a marqué un désir démesuré d'amitié, et ça reprend un poème de Jacob Israël de Haan, qui est un poète et romancier néerlandais. Voilà, et auparavant, ce qu'on voit, alors Isabelle a proposé une belle frise chronologique, et ben on remonte un peu le temps finalement, et on passe de la mémoire de pierre à la mémoire de papier. Et donc la première mémoire, le souhait de faire mémoire, de faire communauté, de faire en sorte finalement que ce qui s'était passé durant les années du nazisme concernant ce qu'on appellerait aujourd'hui les LGBTQIA+, ne soit pas effacé. Et là, on retrouve la première de couverture d'une revue qui s'appelait Amitié en néerlandais, Vriendschap, et qui commémore le 5 mai 1950. Donc vous voyez, c'est assez frais. Donc 5 années après la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, excusez-moi, et surtout la fin de la seconde guerre mondiale. Donc le 5 mai, c'est le jour de la libération, qui c'est notre 8 mai à nous. Hein. C'est le 5 mai aux Pays-Bas, et donc 5 ans après, il y a déjà ce souci qui émerge et qui nous permet d'arriver un peu aux situations qui ont été décrites aussi par Isabelle et Hervé, à savoir ce souci qu'on a connu en France et qu'on connaît encore aujourd'hui de commémoration, d'inclusion des homosexuels dans la commémoration, et les déboires qu'ont pu vivre les personnes qui étaient engagées de la part d'autres collectifs qui voulaient pas en entendre parler. Mais vous voyez, les traces, elles sont assez anciennes, pour ainsi dire, et que ce souci a existé dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la libération.
Alors effectivement, pour arriver en France, si je puis dire, Hervé, est-ce que tu peux, mais justement, tu évoquais dans ton parcours personnel cette rencontre avec Pierre, peut-être nous parler du paysage associatif et nous faire un retour dans les années 90. Là, je vous mets juste une photo pour puisque vous puissiez voir effectivement en couleur et surtout cette dimension pédagogique hein, que tu nous rappelles souvent, Régis. C'est-à-dire que les recrues de la police néerlandaise d'Amsterdam, en fait, participent.
Voilà, c'est un petit programme de lutte contre l'homophobie et les LGBTI-phobies locales. Et donc, les nouvelles recrues doivent assister à cette commémoration qui a lieu. Et voilà, enfin.
Bon, mais allons dans les années 90. Oui, on voulait rester aux Pays-Bas, mais bon, quand même, il se passe des choses en France.
Alors, en France, mais très, très tardivement. Voilà. Alors, les personnes qui ont été déportées, elles ont été déportées pour deux raisons, l'une ou l'autre. Soit pour ce qu'elles étaient ou ce qu'elles ont fait. Or, les homosexuels, quand on travaille dessus, dans la recherche historique, on s'aperçoit que, contrairement à la Shoah, qui était une volonté d'extermination, pour les homosexuels, ça dépendait des années. Ça dépendait du territoire. On va prendre, par exemple, à Nice, on a arrêté, il y avait un cabaret, on a arrêté et on a déporté les travestis. Mais dans d'autres départements, il ne s'est strictement rien passé. Et donc, le monde de la mémoire a eu du mal à accepter notre présence. Et j'y reviendrai, entre autres, avec le livre qui a été écrit, moi, Pierre Cil, déporté pour motif de mon sexualité. Et donc, ça veut dire que quand on était, alors moi, avec mes différentes casquettes associatives, qu'on était présent dans la journée du souvenir, qui est le dernier dimanche du mois d'avril, chaque fois on était présent, des fois on vous déposait une gerbe, etc. Des fois on portait qu'un triangle rose. Chaque fois ça ne se passait. Ça se passait très mal. Et comme en même temps, j'étais aussi journaliste, j'avais les informations sur d'autres territoires, Nantes, Angers, Montpellier, etc. Et je voyais qu'effectivement, ça ne fonctionnait pas, qu'on était dans le conflit, justement, c'est ce que nous expliquait, avec les Flamands Roses, où il y avait un vrai conflit, entre autres à Strasbourg, il y a eu une charge des forces de sécurité, il y a eu des fois, ça a été très, très, très violent. Et en fait, il y a eu un jour, on était présents, on était une quinzaine, donc à Toulouse, et il y a un ancien déporté, un résistant, où j'en profite pour dire que je regrette que dans ce musée, sa photo soit mise en avant. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, où cette personne a crié devant tout le monde, devant le préfet, devant le maire de l'époque, etc., qu'on réouvre les fours pour vous, en plein milieu de la cérémonie. Les personnes qui étaient à côté de moi voulaient bien sûr en découdre. J'ai dit non, on doit respecter tous les morts. Donc, pas de bruit, pas de vague, on ne fait rien. On doit respecter ce temps de mémoire, mais après on fera ce qu'il faut. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, totalement inattendu. Une ancienne déportée, très âgée à l'époque, toute petite, qui est sortie des rangs et qui s'est mise à crier à tel point qu'il a été obligé de quitter la cérémonie. Et de fait, on ne l'a plus jamais vu dans les cérémonies. Et venait, par contre, régulièrement témoigner auprès, ici, au musée, auprès des élèves. Donc le fait que qu'on n'a pas fait de vagues, plus tard, différentes personnalités nous ont remerciés. Or, à ce moment-là, il faut savoir qu'en 89, Jean Lubitou, qui était le directeur et le fondateur de Guépier Hebdo, crée le MDH, le Mémorial de la Déportation. Et donc, qui est une association qui était dans un esprit d'action, de revendication, alors qu'il y a un impact modéré dans le domaine de la mémoire, mais qui a un très fort impact de sensibilisation des personnes LGBTQI+. mais ça ne fonctionnait pas. La violence était présente dans différentes villes. Et une personne, Philippe Couillet, à ce moment, trouve une idée. Philippe Couillet, bourgeois, crée les oubliés de la mémoire. Et là, nous sommes en 2003. L'idée, c'est de passer de l'exclusion à l'intégration pour son acceptation. C'est-à-dire, au lieu de faire une démarche frontale, c'est d'intégrer le système. Et entre autres, c'est en étant porte-drapeau. Donc je suis, même encore aujourd'hui, porte-drapeau. Quand on est porte-drapeau, les élus, même s'ils nous détestent, ils ont l'obligation de nous saluer, parce qu'ils ne saluent pas nous, mais le drapeau, ce qu'il représente. Et donc on va créer le drapeau, donc c'est le triangle rose, avec derrière le triangle noir, pour les lesbiennes, et avec un barbelé qui passe par-dessus, et le tout sous les couleurs de la France. Et là, ça a été un véritable tournant. Donc, 2003, création à Marseille, novembre 2004, création à Toulouse, et malheureusement, novembre, 25 novembre 2005, Pierre décède. Et donc, le drapeau sera ses obsèques. Plus tard, je continue toujours à travailler avec les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui a intégré ce travail et ils ont largement participé au travail mémoriel. Alors, pas que sur la déportation pour motif d'homosexualité, mais aussi sur les tziganes, etc. Et entre autres, un sujet qu'on ne parle pas. S'il y a des historiens dans la salle qui sont en quête d'un sujet, c'est tout simplement les personnes handicapées. Voilà, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et donc, on crée l'association. Ce n'est pas évident d'intégrer, on était dans pas mal de villes, dans un conflit mémoriel, conflit contre les institutions, et là on intègre les institutions. Donc ça n'a pas forcément été évident dans différentes villes de passer le cap, mais les années passant, ça a pu fonctionner à tel point que Philippe Couillet-Bourgeois est intervenu auprès des différentes préfectures en France pour trouver des solutions avec l'association locale pour apaiser et que pas seulement l'association Les Oubliés de Mémoire soit invitée, mais aussi d'autres associations mémorielles LGBT.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors, effectivement, donc moi j'étais à Lille au Flamant Rose, et donc en fait on était dans ce réseau que tu évoquais dans les années 90. Alors à l'époque on s'envoyait des fax pour prendre des nouvelles des uns et des autres. On n'avait pas encore de petits téléphones comme ceci et cela, donc on essayait de faire des boucles de fax, on essayait de prendre des nouvelles des uns, des unes et des autres. Et puis on a eu cette chance vraiment de se rescapé des camps de concentration, cet homme qui est venu nous voir, nous, jeunes. Alors moi, j'avais 20 ans, mais il y avait des personnes qui avaient 30, 35 ans, qui a pris beaucoup de son temps pour partager. Et là, vous voyez, on l'interview. On avait une émission hebdomadaire. Donc effectivement, la mémoire, elle se transmet par plein de canaux, par plein de médiums. Et chacun, chacune, au niveau des associations, vont employer différentes façons. Et là, aujourd'hui, on prépare un podcast. Quelle chance. Et puis pour les Flamants Roses, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a deux professeurs lesbiennes d'histoire-géographie. Et en fait, elles vont faire un travail en fait de nous permettre d'accéder à des travaux de la chercheuse Claudia Schoppmann, cette historienne lesbienne allemande, qui va faire en fait des travaux concernant les persécutions subies par les lesbiennes, notamment à Berlin. Puisqu'effectivement, comme tu nous le rappelais, Régis, le paragraphe 175 va surtout concerner les hommes, à part en Autriche. Mais il y a quand même une persécution. Donc toute la subculture, là tu nous parlais des cabarets niçois, eh bien toutes ces lesbiennes mobilisées qui sont dans différentes, qui créent des magazines, etc. Et donc nous, en fait, on va créer une exposition. D'abord, avec les moyens du bord, cette brochure, les triangles roses, vous voyez, on est toujours un peu focus sur ce symbole. Et puis on va aussi aborder ces persécutions qu'ont subies les lesbiennes. Et en fait, dans les années 90, notre exposition, elle va voyager à travers, en fait, toute la France. Ça va être un support pour, en fait, créer des moments de rencontre à Dijon, un peu partout, à Marseille. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on le verra, hein, il y a depuis eu d'autres expositions. Mais effectivement, on va aussi créer des dessins, créer des représentations. Et on va aussi bien faire des parallèles entre, effectivement, les persécutions subies par nos aînés et puis ce que nous, on peut vivre en tant que personne lesbienne, gay, bi et trans dans les années 90. Donc, vous voyez ce dessin. Et heureusement, eh bien, depuis, les choses ont évolué, ont changé et on l'évoquera tout à l'heure. Mais on était dans, effectivement, chercher à représenter. Alors là aussi, puisqu'on est dans comment cette matérialité de la mémoire, hein, nos mémoires, là, c'est une planche contact. Et donc, pour faire connaître cette histoire des persécutions subies par nos aînés, en fait, on va faire des rassemblements sur la Grand Place de Lille. Et on va notamment brandir tous les triangles roses que vous avez vus tout à l'heure, que vous a présenté Régis. Puisque nous, en fait, on veut se souvenir de l'ensemble des victimes du système oppressif nazi. Sachant surtout que toutes les personnes LGBT font partie de toutes les communautés. Et il y a eu des lesbiennes juives, il y a eu des personnes transgenres qui étaient dans différentes communautés, etc. Et donc vous nous voyez en fait à discuter avec les gens, tracter comme on le fait depuis un certain nombre d'années. Et puis moi en tant que jeune étudiante en histoire, j'essaye de promouvoir cette exposition. Et bien là, vous avez une trace de cette présence dans la bibliothèque universitaire. Et comme tu nous le disais tout à l'heure, Hervé, vous avez malheureusement et heureusement peut-être pas en bande-son les propos homophobes de mes professeurs de l'université qui trouvaient vraiment scandaleux qu'on puisse aborder ces sujets dans la bibliothèque universitaire. Donc effectivement, c'était un moment quand même de grande tension. Donc chaque association, effectivement, s'entraidait. Alors, il y a quelques jours, ici au musée, il y a eu un atelier de fanzines. Nous, à l'époque, on avait aussi nos propres fanzines. Et donc, effectivement, pour partager l'information, eh bien, les associations avaient différentes publications. Donc là, vous voyez cette petite publication qui nous permettait de rester en contact. Et donc, beaucoup d'associations francophones étaient adhérentes et recevaient notre lettre. Mais il y a aussi d'autres groupes lesbiens qui cherchent cette histoire lesbienne, et notamment en Belgique, puisque nous, dans le nord de la France, on a un statut particulier concernant l'histoire nazie. On fait partie, en fait, comment on pourrait dire ça, Régis, de la même, on a quel statut, cette zone du Grand Nord ? Zone occupée, et on est sous la même commandature qu'à Bruxelles. Et donc, nous, on essaie de se rapprocher aussi des bruxelloises. Puis là, vous voyez deux publications. Donc, à l'époque, dans les années 90, on a le magazine Lesbia. Et dans ce magazine, là, vous voyez, par exemple, on vous parle de look lesbien. Eh bien, c'est dans la seule publication où une femme résistante lesbienne, qui avait à l'époque 18 ans, témoigne. C'est la seule façon où on a pu accéder à cette histoire, vraiment par nos propres publications, parfois des livres, parfois des revues. Et donc, pour revenir à ces années donc que tu évoquais avec la création des Oubliés de la mémoire, il y a aussi, effectivement, d'autres médiums mémoriels, notamment via le cinéma. Et on a ce documentaire qui va nous permettre d'accéder à des paroles, notamment de Pierre, mais pas que. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir, donc, deux réalisateurs gays américains qui font tout un travail avec un jeune historien pour nous permettre d'accéder à ces paroles, à ces témoignages. Il a été rediffusé cette année à Toulouse et toujours beaucoup d'émotion, comme tu le disais, de pouvoir entendre Pierre. Ce qui vraiment est intéressant, c'est que à travers la France, les centres LGBT en fait vont déposer avec les oubliés, avec d'autres groupes des gerbes. Là, vous voyez, tu nous parlais de Nice, mais voilà, c'est ce travail fait à Nice. Cette année, par exemple, encore à Perpignan, il y a un dépôt de gerbes. Bref, il y a tout ce travail d'essayer d'être dans le même langage mémoriel. Là, tu parlais que vous avez eu cette réflexion avec le porte-drapeau. Là, c'est les gerbes. Et puis, il y a aussi d'autres moments mémoriels. C'est lors des Prides. Tu disais qu'effectivement, ça a été la Pride la semaine dernière. Et donc, parfois, dans un certain nombre de cortèges, à Bordeaux, là, c'est Montpellier, il va y avoir des moments de recueillement, des minutes de silence. Là, vous voyez un groupe, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui viennent déposer donc une gerbe. Donc, c'est vraiment à différents moments. Hein, c'est vrai qu'il va ponctuer la vie associative qui sont effectivement spécifiques à la communauté LGBTQI. Il y a plus. Il y a quand même tout ce travail aussi donc, que vous avez eu en termes de stratégie mémorielle aux oubliés. Est-ce que tu veux poursuivre puisque vous avez effectivement mené différentes formes, des journées d'études, tout un travail autour effectivement de rendre visible dans les rues.
Oui. Juste pour revenir au niveau des cérémonies, avant on se battait pour être présent dans la cérémonie, le temps passe et malheureusement je constate que dans les cérémonies, eh bien, il n'y a plus personne, à part nous en tant que porte-drapeau. Donc là, ça, moi, ça me pose question. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on revendiquait, on militait, etc. Et puis quand on a pu, maintenant qu'on a été accepté, quel est l'intérêt de poursuivre ce travail mémoriel? Justement, il faut continuer. Et ça, ça me questionne. Je pense qu'il faudrait un jour qu'on travaille collectivement là-dessus. Pourquoi on s'est battu, maintenant qu'on est dans l'acceptation, on se détourne. Demain, dimanche, peut-être que les choses peuvent changer. Rien n'est jamais acquis. Et donc de dire, c'est bon, on est accepté, et demain, si on n'est plus accepté, on faudra qu'on reparte tout depuis le début. C'est un peu dommage. Donc il est vraiment important qu'on soit toujours présent. Le travail qu'a fait l'association, en plus donc d'être présent dans la cérémonie, était de vraiment marquer le territoire de ce qui s'est passé. Alors, on a fait deux, trois petites choses. Je ne pourrais pas tout vous lire, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts, ça serait beaucoup trop long. Mais par exemple, quand Pierre est décédé, en 31 mars 2006, le temps qu'on organise, on a organisé une cérémonie officielle sous l'Arc de Triomphe, avec le ravivage de la flamme, en son honneur, avec toutes les personnalités associatives parisiennes, mais aussi des personnalités ministérielles, etc. Et en fait, on a continué dans ce principe-là. C'est-à-dire que, par exemple, sur Toulouse, comme certains des anciens vous savez, j'ai organisé différents types de cérémonies, ici. Et je vais parler de la photo qui se trouve au milieu. C'était en juin 2007, la veille de la marche de la Pride de Toulouse. Je lance une pétition pour la nomination d'une rue en hommage à Pierre. On avait fait toutes les démarches un mois après qu'il soit décédé, donc en 2005, en décembre 2005. En juin 2007, la mairie ne voulait pas une rue de Toulouse. À l'époque, le maire, c'était Jean-Luc Moudenc, qui est le maire aujourd'hui. Donc on lance cette pétition, et c'est grâce à la signature de beaucoup d'individus, de responsables associatifs, au final, la mairie a accepté notre demande. Alors ils nous ont laissé le choix de deux endroits, et comme vous le savez, la rue, donc la première nomination en Toulouse, enfin en France, ça s'est passé à Toulouse, donc Toulouse est la première ville à porter cette mémoire, voilà. Et cela se trouve à côté, pas très loin de la Loga. Donc c'était un énorme travail, un travail que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça a été très problématique, et c'est juste pour la nomination d'une rue. Puis, par exemple, j'ai été invité par le gouvernement basque espagnol. Certes, je suis basque, mais français. J'ai été invité en fait pour l'inauguration d'un monument aux victimes du franquisme. C'était en 2008 en Espagne, dans la prison d'Alavera, où étaient internés beaucoup de déportés qui étaient homosexuels, et il y avait des survivants. Voilà. Et c'est pas si loin que ça, hein, le franquisme. 75. Donc on a continué dans cette démarche. Donc en 2008, enfin, le 23 février 2008, on va inaugurer cette rue. Plus tard, quelques années après, au centre LGBT, on va inaugurer une plaque. C'est très bien. Puis il va se passer quelque chose qui va avoir un impact et c'est un petit scoop que je vais vous annoncer, c'était en 2008 au monument de l'île de la Cité à Paris, où Philippe Couillet-Bourgeois, en tant que président des Oubliés de la Mémoire, lors d'une cérémonie, dit qu'il faudrait en France qu'on ait un monument, comme aux Pays-Bas, etc., etc. Et donc on commence à en parler, et puis on commence à monter un dossier. Et là, ce dossier, on va se battre auprès des différents ministres qui passent, qui se succèdent, avec la ville de Paris, on travaille. Et puis, au final, Denis Hirak, le nouveau président, va continuer. À ce moment-là, il décide de l'ouvrir en l'ensemble du tissu associatif pour que c'est une démarche collective. Résultat, je peux vous annoncer qu'entre septembre et novembre, on n'a pas encore la date, à cause des JO, à cause des élections, bien sûr. Mais entre septembre et novembre, il y aura l'inauguration de ce monument, donc à Paris, au 12e arrondissement, près de la Bastille. Voilà. C'est une information qui est fraîche d'hier. Voilà.
Moi, je suis sûre qu'il y aura Régis, qui... on essaiera de venir, nous aussi, à QR Code, hein, parce que ça va être un moment historique. Donc là, effectivement, tout ce travail des oubliés de la mémoire... Alors c'est vrai que, eh bien, vous avez bien compris, dans ces mémoires LGBTQIA+, eh bien, chaque groupe cherche aussi une histoire, son histoire. Donc effectivement, Pierre, qui vraiment va être très important pour toutes les personnes LGBT, mais notamment les personnes gays. Et nous, effectivement, au niveau des lesbiennes, on se dit, mais voilà, cette histoire, elle a existé, comment on l'a trouvée, etc. Et c'est en 2007 qu'on va découvrir un film fait par Robbie et Claudie Hunzinger, qui était présenté par Bagdam l'espace lesbien cette année au printemps lesbien, que nous on a accompagné de 2007 à aujourd'hui. On a fait plus de 10 000 kilomètres. L'idée, c'était en présentant ce film, d'essayer de découvrir l'histoire locale. Et je sais que tu es venu nous soutenir, Régis, quand on l'a présenté au Centre LGBT de Paris. L'idée, en fait, c'était de faire découvrir cette histoire de femme qui s'était aimée dans les années 30, 40, dont l'une des deux va être une très grande résistante communiste en Ille-et-Vilaine, et qui sera, ce qui est peu le cas de beaucoup de femmes, mais celle-là sera responsable d'un réseau armé résistant. Et donc nous, dès qu'on a cette histoire, on veut la partager, donc on présente ce film, on partage ce film, on cherche d'autres récits. Et puis, eh bien aussi, on va accompagner cette famille. En fait, Robin, c'est le petit-fils de cette femme, Emma, qui a aimé donc Thérèse. Et donc, on va accompagner sa maman, Claudie, pour publier un ouvrage. Et là, on est dans les années 2000, 2005, 2007, et c'est toujours difficile de publier des histoires concernant les lesbiennes, pour vous dire. C'était quand même il y a 15 ans. On prend plus d'une année de mobilisation. Et on partage ce récit, je vous le conseille. Alors Claudie, elle a décidé en fait de partager la correspondance de sa mère avec Thérèse Pierre, mais aussi de raconter, elle, enfant, comment elle perçoit cette histoire. Et tu évoquais tout à l'heure, Hervé, ben, comment faire des liens entre générations. Et j'ai trouvé, en tout cas pour moi, très émouvant que Claudie, en fait, dédie ce livre à différentes femmes, à sa mère, Emma, à Thérèse, cette femme donc résistante, à Germaine, l'agent de liaison, qui effectivement a fait beaucoup, et puis à moi et à d'autres. Donc effectivement, nous à QR Code, eh bien, on s'est décidé de se créer en collectif en 2015, donc plus d'une dizaine d'années après les oubliés de la mémoire, parce qu'on se disait, voilà, il y a quelque chose à faire concernant l'histoire des lesbiennes et de le faire collectivement. Et donc le nom de notre collectif, en fait, c'est se reprendre en fait des références aussi à cette technologie. Je crois que c'est vraiment important. Comment là on a cette machine, hein, pour imprimer des tracts, des revues résistantes. Et donc là, en fait, on fait référence à cette machine craquée par Alan Turing en Angleterre, cette machine nazie, hein. Donc comment, en fait, il est important de connaître les codes, mais c'est aussi une référence au code amoureux. Là, vous voyez la résistante Claude Cahun photographiée par sa compagne. Juste après leur libération, elles ont été internées sur l'île de Jersey parce qu'elles étaient résistantes. Bref, tous ces codes qu'on doit connaître, nous, pour connaître l'histoire de nos aînés. Et puis, effectivement, bah, ce fameux QR qu'on a un petit peu subi ces derniers temps, mais c'est une technologie très facile. Et là aussi, eh bien, En fait, avec ce petit autocollant, eh bien, vous accédez à une histoire lesbienne, à des mémoires lesbiennes, accessibles dans l'espace public. Puis on a créé un site internet. L'idée, c'était d'aller vers les plus jeunes. C'était d'aller effectivement de le faire avec des femmes et des personnes queer de 20 ans. Et depuis, il faudrait refaire l'arborescence. Mais vraiment, pour pouvoir ouvrir et donner accès à ces histoires lesbiennes de femmes cisgenres et de femmes transgenres, eh bien, on a cherché en fait des outils technologiques de l'époque, des années donc 2015. Et l'idée, ça a été aussi de rematérialiser ces archives et d'aller vers les plus jeunes, de leur donner envie d'aller ouvrir des boîtes d'archives. Là, vous voyez deux jeunes personnes queer qui sont en train de découvrir, eh bien, ces fameux rosiers mémoriels créés par les femmes françaises déportées à Ravensbrück, et donc leur faire connaître ces histoires par aussi différents médiums. Et puis, c'est aussi chercher ces technologies. Et donc, en 2017, on va créer, en fait, des cartographies. Et donc, notre mobilisation mémorielle, c'est tous les ans, pour cette fameuse journée du souvenir, eh bien, on va créer une cartographie numérique pour donner accès à des histoires. Donc là, c'est à nouveau Claude Cahen et Marcel Moore sur cette île de Jersey, cette île anglo-normande. Et donc, l'idée, c'est de faire vraiment avec. Et c'est vrai que moi, je crois que c'est une des clés, Hervé. Comment être ensemble? Et donc là, vous nous voyez en 2019. Eh bien, en fait, on va avec des jeunes lesbiennes, des jeunes personnes queer à la bibliothèque municipale. En fait, ces jeunes personnes pensent que cette histoire n'existe pas, que ces archives n'existent pas. Eh bien, si nos archives existent, tout à l'heure, Régis, tu étais dans des archives départementales, tu en as cherché. Eh bien, là, on va découvrir ensemble ces archives. Ensuite, on va au centre LGBT, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et l'idée, eh ben, c'est à nouveau d'aller prendre la parole ensemble. Et là, vous voyez la bibliothécaire de la ville de Nantes qui en fait nous présente des travaux de Claude Cahen, qui était une grande écrivaine, mais aussi une photographe. Et en fait, on peut échanger, on peut parler. Et puis vraiment, pour nous, l'important, c'est la création, puisqu'on propose aux participantes, il y a quelques jours, il y a eu un fanzine, l'idée, c'était de faire à la manière de ces artistes surréalistes. Et bien sûr, la seule contrainte, c'était de mettre un QR pour pouvoir accéder à la cartographie. Donc vraiment, effectivement, au niveau mémoriel, je pense que de faire ensemble, de faire avec des plus jeunes, mais pas que, c'est important. Et là aussi, ce lien avec les familles, puisque l'histoire des personnes LGBTQI, elle est détenue par les personnes hétérosexuelles. Comment leur donner envie d'aller vers nous? Comment leur donner envie de venir au musée départemental, déposer des archives, partager des récits? Et donc, l'année dernière, nous avons commémoré le décès sous la torture de cette grande résistante communiste, Thérèse Pierre. On a demandé, en fait, à Robin de choisir une photo qu'il a dans sa collection familiale. Il a choisi cette photo parce que elle représente un bouquet offert par sa grand-mère à Thérèse. Et là, en fait, vous voyez le travail mémoriel avec une jeune artiste lesbienne qui va faire ce dessin pour qu'on puisse commémorer, voilà, cette vie, ce parcours. Et on est allé prendre un temps cérémoniel devant la prison Jacques Cartier à Rennes l'année dernière. Effectivement, ça nous demande parfois d'aller sur d'autres moments, mais aussi de le faire ensemble, comme tu disais, Hervé. Et puis, un moment très important pour nous, ça a été être solidaire de groupes de lesbiennes allemandes et autrichiennes qui se sont mobilisées pour qu'il y ait un lieu mémoriel, cette boule du souvenir au mémorial de Ravensbrück. Et donc, en fait, nous n'avons pas pu y aller pour des raisons financières en 2022, mais on a décidé donc de faire un dessin, de commémorer les parcours que nous connaissions de femmes lesbiennes qui avaient été déportées dans ce camp parce qu'elles étaient résistantes. Et on a donc aussi mis ces bougies qui les représentaient sur le lieu de commémoration officiel de Montpellier. Donc vraiment, ce lien entre les générations, entre les pays. Et vraiment aussi, cette année, ça va être émouvant pour nous puisqu'on va être accueillis en Allemagne. On était déjà allés cette année en Heidelberg. On va y retourner. Donc je pense que c'est ce dialogue, cette polyphonie des voix et qui est importante, je pense, à partager. Il y aurait d'autres récits. Je vais juste vous montrer, c'était l'année dernière. Tu parlais de l'importance de personnes. Je pense que pour qu'il y ait des personnes assez cérébrales, il faut inviter les générations à créer aussi leur propre support mémoriel. Et là, ce sont des personnes trans, des personnes queer, qui en fait ont imaginé ce patchwork de tissus en souvenir de deux résistantes lesbiennes internées au fort du A parce qu'elles étaient résistantes. Et vous voyez, en fait, c'est pas les mêmes gerbes que les gerbes officielles ou que les gerbes des associations LGBT. C'est leur façon. En fait, c'est eux et elles et elles qui ont choisi. Nous, on a juste partagé l'histoire de ces deux résistants. Donc, je crois que vraiment aller vers d'autres supports qui est choisi par d'autres générations, je pense qu'on a tout à apprendre de ces personnes. Bref, il y aurait d'autres choses à raconter. Est-ce que Régis, oui, Régis, mais oui, quoi, toi, tu vois aussi des étudiants, tu as des étudiants maintenant qui viennent, qui cherchent aussi à faire de la recherche, qui font de la recherche avec toi. Notamment, j'ai parlé de Thérèse et d'Emma, et une de tes étudiantes a fait un travail sur ses archives privées, familiales. C'est vraiment, on n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans, donc c'est quand même, il se passe des choses.
Non, on n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans, mais c'est une bonne question parce que ça permet d'articuler un peu les choses. Et moi, je vous parlais tout le temps de répression, donc il y a aussi des résistances. Et je pense que c'est vraiment important de penser les choses selon cette dialectique, on va dire, à savoir gay et lesbienne aussi dans la résistance, dans les armées, quand c'était la guerre. Et donc... qui passait jusqu'à présent de manière peut-être plus inaperçue. Et donc là, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui souhaite voir les choses autrement. Et effectivement, eh ben, j'avais cette étudiante qui a pu travailler avec la famille, le journal intime, et qui a publié un beau mémoire. Peut-être que ça aurait dû devenir un livre, je sais pas. C'est une bonne question. Donc ça, c'est des choses qui restent un peu finalement dans les armoires des universités, mais il n'empêche que ça avance et que ça nous permet d'avoir un regard renouvelé et différent sur cette période. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et je pense que ce qui est aussi exceptionnel, c'est d'entendre vos témoignages à tous les deux sur la manière dont la mémoire se construit, se reconstruit et les occasions... qui se mettent en œuvre. Là, il nous a été dit qu'un monument allait bientôt être inauguré, qu'au début, ça avait été compliqué, que maintenant, eh ben, les temps ont changé, que finalement, il y a moins de monde qui vient à ces commémorations, donc les enjeux sont différents. Et donc, on est dans une période de grands changements qui est liée au temps qui fait son œuvre aussi, et à la fin du temps des survivants aussi qui approche, hein. Et donc là on est dans une autre forme de mémoire.
Hervé, tu voulais peut-être revenir sur aussi certains aspects que tu as abordés.
Justement, je vais vous citer deux exemples sur le travail mémoriel, de comment on peut travailler ensemble, et si on ne le fait pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc là, justement, on va prendre la photo qui est à votre gauche, la plaque mémorielle, donc celle de Mulhouse. Donc c'est une plaque que nous avons apposée à Mulhouse avec le maire de l'époque, Jean-Marie Bockel. On n'arrivait pas à apposer cette plaque. Et cette plaque se trouve sur le théâtre en face du square Sainte-Barque. Sainte-Barque, on va venir, quand on va parler de Pierre, mais c'est là, à l'âge de 17 ans, où Pierre faisait ses rencontres nocturnes. Où tout a commencé, voilà. On n'y arrivait pas, pourquoi ? Parce que le propriétaire de l'immeuble refusait qu'il y ait cette plaque. Et après de longues négociations, on a rajouté un mot, et les autres Mulhousiens anonymes. Suite à ça, il a accepté la plaque. Je vais vous donner un autre exemple. Cette photo, c'est le mur du souvenir au camp du Struthof Nasswiller en France. Et en fait, cette fosse, il y a le mur et la fosse où il y a constamment des fleurs, c'est la fosse aux cendres. Et sur ce mur mémoriel, il y a en fait toutes les représentations, toutes les personnes qui ont été dans ce camp. Et malheureusement, il n'y avait pas les homosexuels. Or, différents ministres avaient accepté qu'on dépose la plaque. Tout le monde était d'accord, sauf l'amicale des anciens du camp. Et il était pour nous hors de question qu'on passe en force, puisqu'on avait l'autorisation ministérielle. Il était hors de question et ça traînait d'année en année. Donc autant pour la plaque du Menou, c'était en 2010, et ça a eu aussi un impact, puisque c'est la même année qu'on a pu mettre à poser cette plaque. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était invité officiellement à une cérémonie carrément dans le musée, dans le camp. Et le président de l'amicale qui bloquait, je souhaitais le rencontrer à part. Alors il y avait que Philippe, on n'était que donc que tous les trois, et on essayait de comprendre pourquoi ces freins étaient très très agressifs. Et donc on a pratiqué une écoute. Pourquoi il refusait, tout en même temps il reconnaissait qu'il y avait effectivement bien des déportés homosexuels dans ce camp. Et là-dessus, après une longue discussion, il nous avoue que tout simplement, il avait été violé dans le camp par deux personnes des Pays-Bas, qui n'étaient pas du tout homosexuelles, mais face à la mort, c'est un tabou tombe, tout est possible. Et en fait, il a été violé, et cela marqué, il n'en a jamais parlé dans sa famille. Et il avait une haine contre les homosexuels. Jusqu'au jour, je lui dis, mais ce que vous avez vécu, même pour moi, c'est inacceptable. On ne peut rien faire. Les deux autres sont morts. Par contre, vous pouvez faire quelque chose. Pas pour ces deux. Pour ceux qui étaient à côté de vous, qui étaient eux homosexuels, qui ont vécu les mêmes souffrances. Il nous a regardés, il a tout à coup, sa peur, son agressivité était tombée. Un mois après, il nous a donné son autorisation. Et donc, on a pu apposer cette plaque. Donc, le travail mémoriel, ça doit se faire avec tout le monde, même avec des gens qui nous crient dessus, qui nous insultent, qui nous menacent. C'est d'essayer de les comprendre, pour déconstruire leur haine. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Ce fut là aussi très très compliqué. Pour vous, vous voyez quoi? Un morceau de marbre et de la couleur. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a eu derrière pour arriver à ça. Ce qui fait que maintenant, on est dans la, entre guillemets, normalité. C'est-à-dire que tous les déportés sont représentés dans ce camp. Donc voilà, ce sont ces deux exemples que je voulais citer.
Je te remercie beaucoup. Régis, tu voulais peut-être évoquer quelque chose?
J'aurais pu évoquer plein de choses, mais il y a quelque chose d'assez intéressant et paradoxal quand on pense à l'histoire des camps de concentration, justement, et qui vient d'être annoncé. En fin de compte, et ben c'est cet homme, enfin, qui s'est ouvert à vous, et tant mieux si ça l'a soulagé, hein, a dit « j'ai été violé ou agressé sexuellement par deux déportés ». Mais en fait, eh ben, ceux qui étaient homosexuels dans les camps étaient totalement privés de sexualité. Donc, c'était des personnes très contrôlées qui avaient absolument pas le droit d'avoir une vie sexuelle qui pouvait exister, hein, dans les camps d'une manière générale. Et en fin de compte, eh ben, celles et ceux qui avaient une vie sexuelle, eh ben, n'étaient jamais ceux, estampillé homosexuel. Donc c'est une histoire totalement paradoxale, mais qui correspond exactement à l'ensemble des récits, le récit de cet homme aussi. C'est pour ça qu'il y avait une vive opposition d'une manière générale concernant les homosexuels, mais qui était liée à un certain nombre de confusions. Donc bon, on trouvera peut-être une exception, bien sûr, hein, hormis ce représentant de l'amicale de déportés. Mais c'est vrai qu'en France, les amicales de déportés non raciaux, pour le dire simplement, étaient particulièrement opposées à la venue de vos associations au départ, même si par ailleurs l'État attendait la création d'une association de ce type pour pouvoir stabiliser les choses. Donc ça a été bienvenu et c'est ce qui a aussi permis au final la mise en place de cette plaque et il a fini par céder. Donc voilà.
Alors avant de vous donner la parole, peut-être que Hervé, tu disais que c'est vrai qu'on a la chance, Madame, de vous avoir avec nous. Et Hervé avait envie de vous donner la parole, nous aussi, ça tombe bien. Bon, alors Hervé, parce qu'on s'approche quand même de la fin, Hervé, il faut savoir. Donc, on va privilégier de vous avoir avec nous, Madame. C'est vrai que donc Hervé vous a présenté. Est-ce que vous voulez effectivement nous dire par... Oui, ce que vous avez pu voir comme, comme femme, peut-être que vous avez pu percevoir comme femme lesbienne dans votre parcours de déportée.
Tout d'abord, je suis très surprise de tout ce que j'entends. Parce que jamais je n'aurais imaginé le travail que vous faites. J'ai vaguement, moi personnellement, je peux dire j'étais à Ravensbrück et c'est là où la première fois j'ai vu des personnes, mais je savais pas, je savais pas ce que c'était. Moi, j'étais tout à fait ignorante de la vie sexuelle de qui se passait autour. Et là, à Ravensbrück, quand on est arrivé, nous étions en comment ça s'appelle ? Nous étions en quarantaine et avec plusieurs amis, nous nous sommes aperçus. Nous avons vu deux Stuova qui se caressaient, qui se s'embrassaient. Ça a été la seule fois où j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait une vie sexuelle entre femmes. Autrement, je n'en ai jamais vu dans tout mon parcours, soit à Ravensbrück, soit à Bergen-Belsen. C'est pour ça que j'ai tenu à venir pour apprendre, pour m'éduquer. Parce que on ne sait pas finalement, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Même moi qui étais à l'intérieur du camp, je regardais ça, mais ça ne me touchait pas. Peut-être parce que j'étais trop jeune et que je ne me rendais pas compte. Je pense que c'est ça. Mais je trouve que je vous admire et bravo pour tout le travail que vous faites pour justement que cette catégorie soit reconnue. Je sais qu'au mémorial de la Shoah, on en parle parce que je reçois leur revue et il y a des conférences qui se font sur le parcours des homosexuels. La première fois, j'étais surprise. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, maintenant, je vais apprendre tout, et je vais regarder de plus près tout ce que je viens d'entendre.
Merci beaucoup. Merci de votre témoignage qui est très précieux, puis de votre soutien qui est tout aussi précieux. C'est vrai que l'année dernière est sorti un film qui s'appelle avec l'émotion Nelly et Nadine. Ce sont deux femmes résistantes, une belge et une chino-française, qui sont rencontrées au camp de Ravensbrück et elles se sont soutenues. Elles n'ont pas eu de sexualité puisque c'était puni et c'était très dangereux d'être puni, vous le savez mieux que moi. Mais en fait, c'est la petite fille de Nelly qui, en fait, il y a 2-3 ans, a décidé de découvrir l'histoire familiale. Et c'est un très très beau film. Donc, effectivement, ces récits, on va les découvrir avec vous. Hein, ils sont vraiment en train d'apparaître et ils sont vraiment en train d'être partagés. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment, avec Hervé et Régis, vous rencontrer, vous toutes et tous. Parce qu'effectivement, c'est ensemble qu'on va faire cette histoire. Elle peut encore apparaître à Toulouse, des ayants droit, des familles de cœur.
Vous avez parlé là de en 22 de quelque chose qui s'est passé à Ravensbrück à un moment donné. Et moi, je suis allée à Ravensbrück. J'étais à Ravensbrück en 22, parce qu'il y avait une grande exposition sur les femmes résistantes.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y avait cette grande exposition qu'on espère peut-être accueillir au musée. Et donc, il y a eu cette très belle exposition. Et puis, il y a eu une petite cérémonie à part où il y a eu donc cette boule mémorielle qui a été inaugurée. Mais ça a été effectivement dans un deuxième temps. Mais je vous ferai passer par Hervé cette photographie et puis pour que vous ayez bien toutes les informations. Merci à vous. Donc, Hervé, justement, ce travail d'écoute, c'est vrai qu'en fait... On en a bien conscience avec Fanny et toute l'équipe du musée qu'il faudrait vraiment une journée consacrée à Pierre et à tout ce travail de mémoire, ce travail aussi mais d'historien aussi d'historienne à mener. Est-ce que je sais, je veux pas être la lesbienne castratrice, loin de moi. En plus, je suis. Il y a une trace audio qui va rester de ces échanges. Est-ce que tu veux quand même, et je crois que c'est important. On a senti ton émotion tout à l'heure quand tu as dit comment ça t'avait bouleversé d'avoir eu ce témoignage et comment ça avait été fondateur dans ta mobilisation. Peut-être nous dire quelques mots parce que comme tu l'as dit, c'est précieux d'avoir différents points de vue. Merci à toi.
Je te remercie. Tu m'accordes combien de temps? Combien d'heures?
Écoute, on a 5-6 minutes, mais après je pense que tu as des amis dans la salle qui vont te poser des questions. Je vois là qu'il y a des gens dans la salle qui vont te poser des questions, donc tu vas pouvoir continuer de
donc
présenter.
Je vais faire le parcours de Pierre très très rapidement. Hein, voilà. Il y a pas mal de publications qui sont sorties, hein, Internet, etc. Donc vraiment, c'est des grandes lignes. Pierre, en fait, était homosexuel, il vivait à Mulhouse, et il rencontrait les garçons, comme je disais tout à l'heure, dans le square Sandbach, là où il y avait la plaque que j'indiquais tout à l'heure. En fait, lors d'une ces relations furtives, il y a une personne qui lui a, la réalité, c'est pas ce qui est écrit, lui a volé sa montre. Donc ça montre de communion. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller porter plainte pour dire qu'il a perdu au commissariat. En fait, tout va commencer de là. Or, le 18 juin, c'est pas l'appel, c'est le 10 juin 1940, le Reich arrive à Mulhouse et va s'accaparer de tous les documents et les archives. Et un jour, il va recevoir une convocation pour aller à la Gestapo. Et en fait, il va se retrouver en prison pendant 9 jours. Alors, ceux qui connaissent Mulhouse, il y a la mairie. La mairie est surélevée, mais à l'arrière se trouvaient en fait les cellules. Et pendant 9 jours, il a été torturé, dont l'objectif était de confirmer qu'il était bien homosexuel et surtout, comme l'a dit tout à l'heure Régis, c'est de dénoncer d'autres voisins. Or, à l'époque, il m'a expliqué que il y avait des bars, entre autres, il y avait un bar où très classique, mais en fait, les femmes restaient en bas, les hommes jouaient au billard à l'étage, mais il ne jouait pas seulement qu'au billard. Voilà. Il y avait beaucoup d'endroits à Mulhouse comme ça, qui permettaient d'avoir beaucoup de rencontres. Et Pierre, malgré son jeune âge, a pu en profiter. Donc il va être convoqué et donc ça dans le livre c'est très bien décrit. Je mettrai, je vous dirai 2-3 petites informations sur les livres à la fin. Il sera torturé et il dit par exemple, excédé par notre résistance, les SS commencèrent à arracher les ongles de certains d'entre nous de rage. Ils brisèrent les règles sur lesquelles nous étions agenouillés et s'en servirent pour nous violer. En fait, pendant toute sa vie, il aura des problèmes de digestion parce qu'en fait, il n'aura pas été soigné. Après ces tortures de 9 jours, la règle servait, en fait, c'est la torture où on met la règle, on pose les genoux dessus et on doit rester pendant plusieurs heures debout. Puis la règle servait, en fait, à les violer. Sauf qu'il perforait tout, entre autres les intestins. Donc il a toujours eu des problèmes de digestion, puisqu'il n'a, en fait, jamais été soigné. Et quand, de là, il est parti dans le camp, évidemment, il n'a pas du tout été soigné. Donc, il a eu toute sa vie des problèmes de santé assez importants.
Même audio, une mémoire sonore.
On arrive à la fin de nos échanges et c'est vrai que toi, tu as eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, de le soutenir pendant de très 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 nombreuses années. Ce que je te propose, c'est que on laisse nos amis peut-être avoir quelques questions, puis après peut-être revenir, parce que je pense qu'on a encore on a quelques moments avec nous, et puis surtout, effectivement, on va continuer de partager son histoire et leurs histoires. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Puis sinon, moi, j'en poserai, mais merci à vous.
C'est assez difficile de parler après ce pour avoir ça. Merci Hervé, parce que moi je n'ai pas pu connaître Pierre Zelle comme vous, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et c'est bien de lui rendre hommage, parce que c'est un homme épatant. Le peu que j'ai pu discuter avec lui, c'était vraiment... Et je l'avais vu, je l'avais interrogé dans le 26 à l'époque, un bus, il habite en Palau. Et suite à l'émission qu'il avait fait au dossier de l'écran, et je me suis approché de lui, et je me suis rappelé, mais je le connais ce monsieur, et 2 ou 3 ans avant, alors ça c'est une petite histoire, il faut quand même un peu d'humour, mais j'étais au cinéma Rex, à Toulouse, il passait, je me rappelle, Les raisins de la colère, j'arrive à la caisse, j'avais pas d'argent, j'avais oublié l'argent chez moi. Et Pierre, oh, je pense pas que c'était la drague, hein, je ne sais pas, mais, disons qu'il me dit, mais j'étais étudiant à l'époque, écoutez, bon, c'est pas grave, à l'époque c'est encore affreux, je peux vous payer la place. Et j'ai accepté. Plutôt que de revenir y ploter tout chez moi, c'est gentil, il m'a proposé la place, il ne s'est rien passé. Et donc, quand je l'ai rencontré 3 ans après dans le bus, j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois. Malheureusement, j'ai vu le travail que vous avez fait à Toulouse et tout. Bon, j'étais pas. Mais c'est vraiment un bel hommage à lui rendre. Alors là, je terminerai simplement sur une question. Il y a quelque chose, quand on analyse beaucoup, on parle bien sûr de... Vous parlez en termes de communauté. Bon, moi, j'ai un peu quelques problèmes par rapport aux communautés. Mais bon, c'est un autre problème. Actuellement, quand même, il faut reconnaître qu'il faut être très vigilant, on est d'accord. Mais quand on se rend compte, alors on ne veut pas parler politique, mais on est bien obligé un peu, quand on se rend compte, les extrêmes droites aujourd'hui, elles sont très différentes en fonction des pays. Il y a certaines extrêmes droites qui sont très LGBT en Pologne, en Hongrie, pas du tout. Quand on voit en France quand même le score que fait Marine Le Pen ou etc. dans le Marais à Paris. Et bon, je terminerai, mais quand même, il faut voir que c'est la politique et la récupération des homosexuels par les partis politiques, ça m'interroge un peu. Et quand on voit aussi que le premier maire de France, quand on fait la politique, alors je suis absolument anti, hein, mais que c'était le maire d'Hénin Beaumont. Qui se revendique homosexuel, que le second de l'Assemblée nationale, je crois, Chemenu, il est paxé, que Julien Odoul a surtitu. Bon, soyons honnêtes, actuellement, c'est vrai qu'il faut... À l'époque, on voyait toujours la gauche par rapport à... Alors, c'est vrai que les communautés, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas, quand on fait un travail mémorial, un travail... Attention, soyons vigilants. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas un peu éviter... C'est dur, hein, parce que... Je pense que je m'exprime bien. Parce qu'actuellement, on se rend compte que l'extrême droite... beaucoup d'homosexuels sont gagnés, nos générations n'étaient pas comme ça, mais sont gagnés par ces partis politiques. Et je parle des homosexuels, mais ne parlons pas aussi par rapport au Klarfeld et juifs et tout. Donc sur ce plan de vue-là, moi c'est ce qui m'interroge le plus quand on fait un travail mémoriel et qu'on veut s'éloigner un peu peut-être de... voilà, c'est tout. J'ai peut-être un peu trop parlé, mais je suis passionné sur ce sujet. Attention à demain quand même, voilà.
Merci pour votre intervention. Alors, c'est vrai que nous, on se pose aussi effectivement des grandes questions. Et dans notre site internet, effectivement, on voulait aussi parler de ces femmes qui, pour différentes raisons, qui ont aimé des femmes, effectivement, étaient dans de la collaboration, se sont retrouvées aussi en termes d'idéologie, hein, avoir choisi le camp nazi. Donc, effectivement, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans ont des idées, ont des religions multiples, font partie de différentes communautés dans le sens de groupes et ont des intérêts communs. Hein. Est-ce que Régis, par rapport justement, pas à l'extrême droite, mais au niveau mémoriel, est-ce que justement tu étais il y a peu en Allemagne pour un grand moment de recherche sur une région, une euro-région? Et il y a aussi effectivement des moyens alloués pour justement continuer cette recherche et peut-être aussi, en connaissant mieux notre histoire, peut-être que ça permettra d'éclairer les personnes qui sont dans les extrêmes aujourd'hui.
Je ne vais pas tout à fait répondre à la question parce que je reviens aussi de Hongrie où on m'a expliqué à l'université de Budapest que ce que je faisais, c'était impossible pour elles et eux désormais, que les mots que j'employais tels que genre, sexualité, enfin, ou que le fait de travailler sur les condamnations pour homosexualité à leur niveau, c'est devenu impossible. Donc, ce sont des termes qui sont bannis. Et pour revenir à la question de l'extrême droite et en lien avec les victimes du nazisme, eh ben en 1935, jusqu'à 35, les homosexuels allemands se disaient c'est très bien, on a Ernst Röhm, le chef des SA, qui est notoirement homosexuel. La nuit des longs couteaux, quand tous ont été assassinés, eh ben le vent a tourné. Donc faut voilà. Enfin, je conclue ici.
Hervé?
Pour continuer ce que dit Régis, ben, par exemple, Rudolf Braza, parce qu'on n'a pas le temps, mais lui a été arrêté en 1937. Voilà. Alors, j'ai une double casquette. C'est à ce titre-là que je vais vous répondre. Je suis le délégué régional de Homo-Société et Socialisme. Voilà. Votre question est une très bonne question. Si je dois faire des réponses simplistes, je dirais, malheureusement, il y a des êtres humains qui ont tendance à s'asseoir sur une branche et la scie du mauvais côté. C'est-à-dire qu'en fait, ils déclassent leurs priorités. On a effectivement beaucoup d'homosexuels hommes qui votent pour l'extrême droite. Et sans... Allez, on va donner les chiffres. 40% des députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale sont homosexuels. Voilà.
Je poserai pas la question de savoir comment tu le sais. Hein. Je tiens ma juste.
Voilà, on va pas rentrer dans les choses comme étant enregistrées, donc je peux pas dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'hommes ont peur, et ça a été construit, véhiculé par entre autres les médias, etc. La peur de l'autre, mais la peur en fait du monde musulman envers les homosexuels. Et donc, on fait un amalgame total. Et donc, beaucoup d'homosexuels sont prêts à voter à l'extrême droite pour, soi-disant, de se protéger contre les musulmans, alors pour être précis, contre les musulmans extrémistes. C'est le problème de toutes les religions extrémistes. Toutes les religions ont des groupes extrémistes. Et c'est eux qui causent un problème hein, pour la démocratie, pour le vivre ensemble, etc. Et donc, c'est la peur qui les amène à voter, en fait, pour leur pire ennemi. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas une grande culture, ces personnes, une grande culture historique. Bon, si je parle de division Charlemagne, pour vous, ça vous parle, mais pas forcément pour eux. Ou ils vont dire, oui, mais depuis, ils ont changé. On a, par exemple, la fameuse phrase, et ça, Régis peut nous le dire, la fameuse phrase qui est « on les a jamais essayés ». Alors d'abord, on les a déjà essayés, ils sont déjà dans l'Assemblée, ils sont maires dans des grandes villes, et quand tu disais que la première des choses, on supprime les villes, les livres, quand Ménard était arrivé à Béziers, la première des choses, c'est de supprimer des ouvrages dans la bibliothèque. Non, ils n'ont pas changé. Seul leur costume a changé. C'est juste que l'apparence, l'objectif, c'est qu'ils soient élus, qu'ils soient en place. Donc ça, oui, ce habillage du Gobo, c'est assez...
Alors ce qui est bien, c'est que comme on est dans ce musée de la résistance d'aujourd'hui aussi, hein, à ce que j'ai cru comprendre, que c'est un musée qui amène des débats, je me permets juste, parce que je sais que tu as beaucoup d'arguments et que c'est vraiment, ça te tient à cœur et moi aussi... Moi, je pense que vraiment, Fanny, il va falloir qu'on voilà, il y a plusieurs moments pour que les personnes LGBT connaissent leur histoire, que justement, ils puissent être éclairés dans leurs choix politiques. Et ça, je pense que c'est vraiment précieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, ce que je voulais aussi dire, et je crois que c'est très important, on a parlé des gays, on a parlé des lesbiennes. Mais il y a aussi d'autres personnes au sein, en fait, de ce grand parapluie d'identité. Et je pense qu'aussi, j'en parlais avec Florence Tamagne, Régis, qu'on a invité avec la ville de Toulouse il y a peu. Et je lui disais, voilà, le magnifique exposition dont Madame nous parlait du mémorial de la Shoah. Le titre, c'est « Homosexuels et lesbiennes durant l'Europe nazie ». Je lui disais, il faudrait peut-être aujourd'hui mettre également... personne transgenre. Et elle me disait que oui, effectivement, il y a un travail d'historien, d'historienne, de mémoire. Là, vous voyez Ovida Delect, c'est une femme transgenre qui a été en fait déportée en tant que jeune homme parce qu'elle était résistante. Et c'est vrai qu'en fait, on a présenté son témoignage qui était vraiment bouleversant de cette femme qui a aussi un vécu particulier. Et moi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez et ce que vous en pensez, vous, mais il y a encore des mémoires à partager et vraiment aussi à faire vivre. Je ne sais pas si tu as entendu parler de recherche. On va travailler avec une Allemande, une de tes consoeurs, qui a travaillé sur une femme, une personne, un homme transgenre, donc de Berlin. Est-ce que tu aurais des choses à nous dire sur cette mémoire?
Non, moi je dis juste qu'il y a deux recherches en cours en Autriche. On ne parle pas souvent de l'Autriche, hein, mais... C'est... Voilà. Donc, j'ai rien à annoncer concernant les résultats des recherches, mais ce qui est bien, c'est qu'Isabelle a entamé la discussion. Donc, Les recherches continuent et là, il y a deux recherches sur les personnes trans déportées dans les camps. Et ça me rappelle qu'il faudrait que je réponde à ces gens. Donc, ça, c'est une autre histoire.
Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je lance Hervé et vous savez comment il va continuer. Hein, parce qu'il a... il y a des questions. Vous pouvez lui poser des questions, bien sûr.
Alors merci beaucoup. Je suis un peu émue après la conférence quand même. C'est très important et en plus c'est la mémoire elle est l'une des personnes LGBTQI et est difficile à accéder aussi que ce soit la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit celle d'avant ou que ce soit celle d'après aussi des luttes et des résistances au juste de la vie. Et notamment en France, on a un petit peu plus de sources pour les États-Unis, j'ai l'impression, et plus de voix. Et bon, je pourrais dire plein de choses, mais j'ai des questions juste techniques. vous aviez dit que l'article 175, il s'était appliqué différemment en Autriche par rapport à en Allemagne. Et bon, j'aurais bien voulu savoir comment. Voilà.
Eh ben, on va laisser Régis répondre tout de suite comme ça, parce que... Allez, go!
En fait, c'est très simple, c'est qu'il y avait un article allemand qu'on appelle communément le paragraphe 175 au article 175 qui est issu du code pénal prussien à l'origine, donc l'Allemagne autour de Berlin, sachant que l'Allemagne plutôt de l'Ouest conservait le code napoléonien, donc on réprimait pas l'homosexualité au départ. Donc ça, c'est le processus d'unification allemande. Et jusqu'en 1935, c'est répression de l'homosexualité masculine uniquement, c'est-à-dire la pénétration anale. C'est un cadre très précis. En 35, eh ben, ça va être l'homosexualité masculine en général. Donc ça élargit le spectre, et ce qui fait qu'il y a plus de condamnations. Mais en Autriche, ils avaient aussi leur code pénal, le code pénal autrichien, ou austro-hongrois. Et là, c'était les articles 129 et 130 qui réprimaient l'homosexualité masculine ou féminine. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait des recherches simples en archives, on recherche les gens condamnés en vertu d'un article du code pénal, et ben, en Autriche, on peut retrouver 129-130. Et à partir du moment de l'annexion de l'Autriche, enfin, ça met un peu de temps. Donc, l'Autriche est annexée par les Allemands. Les Allemands veulent qu'il y ait cette extension du code pénal. Et donc... on réprime selon la tradition nouvelle nazie dans l'esprit du paragraphe 175. Alors là aussi, il peut y avoir des résistances au niveau des Autrichiens, parce que le code paragraphe 175 a aussi été appliqué à un moment aux Pays-Bas, à partir de 42 en Alsace justement occupée. Donc c'est l'extension du paragraphe 175 ou de son inspiration, mais ça mériterait un plus long développement.
Merci beaucoup. Après, il y a aussi, on l'a abordé très rapidement, mais la question de l'extermination des personnes handicapées, notamment du programme Action T4. Et justement, j'avais l'impression dans les articles que j'ai lus ou les vidéos que j'avais pu écouter sur la déportation des personnes trans, qu'une partie des personnes trans, et même aussi d'ailleurs des parties des homosexuels, avaient été tuées dans le cadre de ce programme psychiatrisé. Est-ce que vous auriez des informations sur ce sujet-là ?
C'est quand même quelque chose d'affreux, hein, l'opération T4 en général, parce que c'était le prélude à la solution finale de la question juive, pour reprendre la terminologie nazie et SS. Et donc, c'est l'extermination des personnes handicapées. Et de voir la question, c'était un peu la réaction des familles, la réaction des églises, des autorités qui sont certes indignées, mais voilà, c'était une phase un petit peu de test. Après, ben, la question que vous posez là, c'est finalement toutes les opérations qui ont aussi pu être menées sur des personnes. Enfin, je pense aux homosexuels, par exemple, qui ont subi des opérations et qui ont ensuite été envoyés dans un commando qui s'appelait le commando herbe aromatique, qui signifiait extermination. Parce que ça, c'est toujours le langage nazi, donc on vous envoie au jardin d'herbe aromatique, en fin de compte, c'est, c'est quelque chose de très particulier. Et là, pour les personnes trans, on a quelques informations. Mais ça, c'est vraiment au début des camps. C'est très localisé à chaque fois. Donc, on a des infos pour tout ce qui se passe autour de Berlin, parce que ça dépend un peu des recherches qui ont pu être effectuées. Et là, eh ben, c'est les moments un peu les plus horribles. Mais c'est avant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs. C'est vraiment cette période avant 1939. On avait cet exemple typique et intéressant parce que d'un côté, enfin, les juifs étaient mis à part dans le camp et on avait aussi des, par exemple, des homosexuels juifs. Et la question qui se posait, c'était de savoir de quel côté ces gens devaient être mis. Ils étaient avec les homosexuels et qui pour partie pouvaient être libérés en signant, en acceptant d'être castrés. Il y avait des choses comme ça avant que ça soit plus routinisé, standardisé.
Nous avons présenté au musée départemental de la Résistance l'année dernière l'exposition Constellation brisée Ravensbrück qu'on avait réalisée et on a présenté un parcours notamment de Henny Sherman qui en fait va se retrouver en fait effectivement tué dans certains de ces lieux que vous évoquez.
Merci beaucoup parce que ça me paraît que des situations qui sont très particulières, très intéressantes, notamment que ce soit les personnes psychiatrisées, les personnes homosexuelles, trans et les Roms et les Tziganes, où en fait on est passé de lieux d'enfermement ou de répression très fort avant la guerre à des lieux d'enfermement et de répression très fort, voire de mise à mort pendant la guerre, à de nouveau des lieux d'enfermement et de répression après la guerre, et qui sont par exemple moins le cas pour les Juifs. Et qui aussi répond beaucoup à l'actualité. Je pense par exemple à la situation états-unienne sur les personnes trans, où plusieurs instituts parlent de génocide trans pour les lois anti-trans qu'il y a dans les États. Bon, je ne sais pas où je vais avec mon développement, mais merci beaucoup pour la confiance.
Merci effectivement d'évoquer tout cela et Régis et je sais qu'Hervé vous avez aussi à cœur. On voit bien que pour les personnes LGBTQIA+ après-guerre, comment parler? On a pu, des historiens et historiennes ont documenté des parcours d'hommes gays qui vont être ensuite à nouveau persécutés, notamment en Allemagne après-guerre. Effectivement aussi la complexité de prendre et d'être écouté, à quel moment on peut prendre la parole, c'est vraiment en France aussi, on le voit bien dans le parcours de Pierre et d'autres personnes. Donc effectivement différents types de prisons qui rendent complexes et voire inaccessibles parfois ces paroles. Est-ce que, Fanny, peut-être que toi, pour clôturer, puisque je pense que tu nous aimes beaucoup, et ça c'est extraordinaire, parce qu'effectivement c'est quand même pas tous les musées, hein, bien sûr, Hervé tu le sais bien, qui accueillent ces paroles, qui font ce travail de coopérer avec différents acteurs, actrices et chercheurs, et je crois que c'est vraiment important. Tu voulais évoquer peut-être ce témoignage, peut-être nous donner envie de lire ce témoignage, et puis après, je pense qu'on clôturera ce moment partagé.
Alors, je vais être assez rapide, hein, puisqu'il se fait un petit peu tard. Donc, je vais juste vous parler de quelques mots de Rudolf Brasda, ici, et vous l'avez ici en photo. Lui, en fait, il est né en 1913. Alors, je fais appel à votre connaissance sur la géographie européenne, d'accord ? Pas d'aujourd'hui, d'antan. Donc en fait, il est né à Brussen, dans la province de Saxe. Ça peut vous aider, d'accord ? Les parents sont assez pauvres et au final, ils vont déménager pour aller travailler du côté de Badensee, dans la province de... Je vous dis une bêtise. Bref, en tout cas en Allemagne, excusez-moi, pour les territoires. Ce qui va se passer, c'est que il va être, avec l'article 175, il va être arrêté en 1937 et il va être emprisonné. Rudolf a un parcours quand même incroyable. Donc les photos qu'a pu recueillir Jean-Luc Schaub, c'est lui qui a hérité de toutes ces archives. Enfin, on le voit dans les années 30, 33, 34, où il est habillé de façon totalement exubérant, assez surprenant pour l'époque. Or, il va se faire arrêter en 1937, sauf qu'on n'a pas encore tout le système concentrationnaire qui est vraiment encore mis en place, excusez-moi du mot, rodé. Donc, en fait, au bout de 6 mois, il va être libéré, mais par contre, il devra quitter le territoire. Pas de bol, il s'en va dans les Sudètes. Juste quelques temps après, Hitler envahit les Sudètes. Il va être tranquille pendant quelques temps, mais malheureusement, par dénonciation, en juin 42, il va être ce qu'on appelle la détention de sécurité, ce qui va repartir en prison. Mais cette fois-ci, après sa condamnation, il sortira de prison pour être envoyé dans le camp de concentration à Buchenwald. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de revenir, quand il était vivant, de revenir pour un événement qui était organisé en son honneur à Buchenwald. Et donc, en fait, il va vivre toute la guerre dans ce camp de concentration et un capot va le cacher dans les toilettes. Et ils vont éviter en fait la marche de la mort et donc c'est les Américains qui vont libérer le camp. Au final, avec tout ce qu'il a vécu, il décide de quitter le monde germanique et va venir en France. Alors il va rester en Alsace, pourquoi ? Parce qu'il ne parle que l'allemand. Et en fait, c'est un apatride. Et donc il obtiendra sa nationalité en 1960. Plus tard, il va vivre avec l'amour de sa vie pendant 50 ans. Et il va absolument taire de ce qu'il a vécu. Il va absolument pas du tout témoigner, sauf à l'âge de 95 ans. Et oui, 95 ans. Il va témoigner pour la première fois le 28 juin 2008. Pourquoi ? Puisque en Allemagne, à Berlin, a lieu l'inauguration du monument aux victimes homosexuelles du nazisme. Il y a en ce moment un emballement médiatique autour de lui, puisqu'en réalité, 95 ans, c'était le dernier déporté pour nos motifs d'homosexualité en Europe. Il sera d'ailleurs adhérent des oubliés de la mémoire, donc nous avons travaillé ensemble, et Jean-Luc était en fait coïncidence, quasiment son voisin, a pu recueillir son témoignage. Donc ce qui est assez rare par rapport à d'autres témoignages, c'est que c'est un témoignage vierge. Si je prends 10 personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, 10 personnes qui assistent à un accident, les 10 personnes vont témoigner différemment. Or, quand on recueille la mémoire d'un déporté, il faut faire attention, il faut faire un travail de recherche historique. Et si nous avons eu en France beaucoup de retard par rapport à ce que disait Régis,
tu sais qu'on va pas pouvoir ouvrir ce débat.
Très rapidement.
Non, je suis désolée, Hervé.
C'est que le travail mémoriel de fond, de recherche, n'a pas été réellement effectué dans son ouvrage où il y a une erreur historique monumentale qui a freiné le monde de la mémoire. Et le monde de la mémoire s'est servi de ça, en fait, pour ne pas accepter notre travail. Et c'est pour ça le travail que tu as fait, Pré-Régis, et nous-mêmes et d'autres associations, qui a permis de dépasser tout ça, de sortir des conflits, de trouver ces documents dans ces archives et de faire vivre cette mémoire. Voilà en quelques mots sur Rudolf Brazet et aussi sur Pierre.
Merci Hervé, c'est vraiment important, lisez ce témoignage. Un petit clin d'œil à nos engagements, Hervé, mais aussi au travail de recherche mené par Régis. Et vraiment, je pense que on vous invite d'aller découvrir ces histoires, nos histoires. Prenez bien soin de vous et continuez de fréquenter le musée. C'est un bon antidote. Merci.
Merci.
Même audio. Une mémoire sonore.